Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Cette semaine, une galerie d'historiens. Troisième portrait, Georges Duby.
Nous, historiens, nous ne pouvons pas polluer le passé, n'est-ce pas ? Par les artifices du langage. L'historien parvient à percer, si vous voulez, cette espèce de cloison pour aller autre part. C'est par là qu'il fait véritablement son métier.
Georges Duby est né le 7 octobre 1919 à Paris, à deux pas de la République. L'appartement donnait sur la cour. Cette cour fut son premier terrain de jeu. Invité à raconter sa vie d'historien, d'artisan devant son métier, il se demanda s'il dirait « je » ou bien s'il parlerait de lui, comme dans cette phrase de lancement, à la troisième personne. Il hésita, comme toujours se reprit, il n'écrivait jamais facilement. S'il avait pensé à la troisième personne, c'était pour maintenir un écart entre l'historien et son objet, certainement pas par suffisance. Il s'étonnait d'ailleurs d'avoir atteint un degré de reconnaissance sociale auquel les historiens parviennent rarement. Georges Duby, écrivait-il avec une sorte d'innocence, se surprend parfois à tenir pour un autre, le Georges Duby dont on parle autour de lui. Professeur au Collège de France en 1970, homme de télévision avec le temps des cathédrales, membre de l'Académie française en 1988. En réalité, le jeune professeur issu de milieux modestes qu'il avait été n'avait pas projeté de devenir tout cela. Il estimait avoir bénéficié d'un enchaînement de circonstances étonnamment favorables, parmi lesquelles un appétit d'histoire dans le public des années 1970 qu'il ne s'expliqua jamais tout à fait. Et si l'appétit était venu de la qualité du menu offert par les grands chefs historiens de l'époque? La génération des années 1970 fut heureuse de se consacrer à un public qu'elle voulait très large et dont elle estimait qu'il était le destinataire normal de son travail. Elle lui parlait directement, sans trahison ni vulgarisation, avec, comment dire, une simplicité haute.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jacques Dallarin, bonjour.
Bonjour.
Oh, Georges Duby n'était pas insensible aux honneurs, donc je vais dire que vous êtes un jeune membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, membre de l'Institut depuis peu. Hein.
Depuis un an et demi, à peu près.
Depuis un an et demi. Alors, vous travaillez depuis longtemps, au moment de cette élection, sur les archives de Georges Duby. On dit souvent que les médiévistes, c'est un tort de dire ça, on peut d'archives, toujours les mêmes textes à lire et à relire. Mais alors, les médiévistes peuvent produire des textes eux-mêmes, sur eux-mêmes, c'est le cas de Duby.
Oui, alors en fait, vous le disiez, on a beaucoup d'archives aussi sur le Moyen-Âge, ça dépend des périodes internes au Moyen-Âge. Mais là, c'est au second degré, ce sont des archives historiographiques, celles qu'un historien a laissées de lui-même, qu'André Duby, la femme de Georges Duby, a déposé en 2003 à l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine,
Abbaye d'Ardenne,
près de Caen, et que nous avons décidé un beau jour, Patrick Boucheron et moi, d'explorer comme nous aurions exploré justement un fonds médiéval.
Oui, enfin, il avait laissé tout dans un ordre parfait, comme s'il vous attendait.
Un ordre méticuleux qui, plus j'y repense, plus avait des allures de bouteille à la mer avec une carte au trésor caché dedans.
Eh bien, il a bien fait de vous attendre. Avec Boucheron, Mes égaux histoires, les différentes étapes d'un texte qu'il avait donné à Pierre Nora dans les années 1980, texte autobiographique, et puis avec tout un collectif de participants à un colloque à la Fondation d'Étreilles, un autre livre publié chez Gallimard, Portrait de l'historien en ses archives. Je ne savais pas que Georges Duby était à ce point marqué par la géographie. Son premier vrai article, c'est pas un article de médiéviste comme vous dites, c'est un article dans une revue de géographie.
Son goût pour les sciences humaines, il le raconte à de nombreuses reprises, vient de la géographie, en particulier d'André Alix, professeur à l'université de Lyon. Et il a toujours considéré que la tradition française, qui consiste à lier l'histoire et la géographie, était particulièrement féconde. Et sa thèse sur la société mâconnaise au XIe, XIIe siècle, c'est d'abord un espace dont il va creuser le temps, et non pas un fil chronologique auquel il accrocherait des lieux.
Parce que la géographie, c'est l'indétermination, la complexité des indéterminations. C'est pas une cause qui produit une conséquence comme dans l'histoire positiviste, c'est beaucoup plus compliqué.
Au fond, on peut dire que son amour de l'histoire et de la géographie se réunit, comme chez Marc Bloch, dans sa compréhension des paysages, avec la part qu'il y a de nature et la part qu'il y a de temps.
On va beaucoup parler de l'écriture de Duby. Il utilise souvent des comparaisons géographiques, failles dans les stratifications, glissements et porosité dans les terrains, etc.
Géologique même.
Ouais.
Il faut que ça bouge.
Alors, le Mâconnais, avec le tournant de l'an 1000, un espace géographique, la description de la société féodale. Mais quand il décrit la société féodale, c'est avec des outils au départ assez marxistes, il décrit les soubassements économiques. Mais ce qui l'intéresse aussi de plus en plus, c'est la culture que constitue la société pour se représenter elle-même. Alors, dans le cas de la société féodale, c'est évidemment la culture des trois ordres.
Oui, c'est le livre qui est paru en 1978, qu'il a très longuement préparé, dont on a conservé absolument tout le dossier d'instruction, et auquel nous consacrons d'ailleurs un article dans notre recueil, toute cette tentative de cerner l'homme, l'artisan dans son atelier.
Alors les trois ordres, c'est les clercs qui dominent et qui tu touches de très peu aux réalités impures. Et les chevaliers qui souvent l'exaltent un peu.
Il aime bien le monde des chevaliers parce qu'au fond, ce que nous avons compris aussi en croisant ces études d'historien et ces confidences, ce que nous avons compris, c'est qu'il se voyait un peu comme un de ces hommes neufs qui, dans la faille qu'il imaginait en l'an 1000, aurait pu changer de statut et, par son mérite, s'intégrer un cran plus haut dans la société.
Son maître, Jean Degnaud, qui l'a formé, qui était professeur à Lyon, lui avait recommandé cependant « quoi que vous enseigniez ». N'oubliez pas l'immense peine des hommes. Alors, il parle bien des laboratores, du troisième ordre, les paysans qui suent, qui puent et qui s'accouplent comme du bétail.
C'est très étrange parce que Georges Duby parle des clercs avec respect et défiance. Il parle des chevaliers tantôt comme des brutes épaisses, mais tantôt tout de même comme ceux qui ont inventé l'amour courtois et avec une certaine admiration, voire une certaine identification. Et lui qui, évidemment, à la fois dans ses schémas marxistes et je crois aussi dans ses convictions personnelles, par son ami Marcel David, par exemple, est très près du monde des travailleurs, en parle toujours dans les termes dont les castes dominantes parlent d'eux au Moyen-Âge, ce qui a un effet extrêmement brutal.
Alors c'est le temps où ses collègues, je pense à Le Goff, à le roi Ladurie, aiment bien travailler collectivement avec lui, par exemple, pour de grands travaux qui provoquent des avancées théoriques et des succès éditoriaux qui ont accès aux tribunes télévisées. Je pense à l'histoire de la vie rurale. Nous sommes ici à Apostrophe, dont Duby est un habitué en 1979, et il parle justement de l'analyse par les médiévistes des textes.
C'est vrai qu'effectivement, sans arrêt, vous dites que vous doutez peut-être par exemple, de la traduction d'un mot latin.
Et bien sûr,
parfois vous dites,
j'en
suis pas
bien
sûr.
Bien sûr, je donne du même texte deux ou trois traductions différentes successivement pour montrer précisément cette imperfection que nous avons dans notre connaissance. Je parlais tout à l'heure de ces traces sur lesquelles nous travaillons. Elles sont infimes, elles sont dispersées, et nous ne savons presque rien. Et alors, nous essayons le plus honnêtement possible de mettre en place ces vestiges, de les rafistoler. Et bien sûr, il faut quand même faire une part à notre invention imaginaire. Toute histoire est subjective d'une certaine manière. Le droit au flou de l'histoire, ça veut dire, je le considère comme étant une prise de position
alors, écoutez,
contre une histoire glacée. Une histoire glacée, n'est-ce pas, et qui prétendrait, n'est-ce pas, à un caractère scientifique exact.
Enfin, le flou, si imagination il y a, elle est contenue dans des limites, celles de la connaissance. Ce qui est intéressant peut-être dans ce propos, Jacques Delarin, pour rester sur le thème de l'écriture, quand il traduit un essai, deux essais, trois essais. Quand il écrit un essai, deux essais, trois essais, quatre essais, vous trouvez toujours dans les archives quatre états
c'est
de l'écriture.
C'est incroyable. Cet homme, quand on lit le produit fini, c'est-à-dire quand on lit ses textes, hier ou aujourd'hui, on est pétrifié devant la beauté avec laquelle il manie le langage. Et en réalité, lorsqu'on pénètre dans ses archives, on se rend compte que c'était un forçat de l'écriture. Et jusqu'à la fin de sa vie, au moment où il avait absolument tous les honneurs, où il était membre de l'Académie française, pour une conférence qu'il allait faire dans le coin le plus perdu, on trouve encore des fiches en plusieurs rédactions. On l'a parfois accusé de jouer de sa facilité, or il s'en défendait, et réellement, lorsqu'on est dans la forge, on se rend compte qu'il n'en a aucune, que tout lui coûte énormément, mais qu'au dernier moment, il a l'élégance suprême de supprimer tous les essais et de laisser la magie du verbe.
Oui, mais c'est qu'il cherchait un objectif inouï, il voulait faire une histoire visuelle, être un œil, et un œil au bout d'un corps, parce que il était concerné par ce qu'il écrivait. Alors l'histoire visuelle, il le fait avec Skira, l'éditeur. Il le fait aussi bientôt avec la télévision. Vous avez connu Georges Duby, vous, par le temps des cathédrales ?
Oui, en regardant la télévision dans les années 70 et en découvrant cet homme qui parlait avec ses yeux bleus et qui parlait des cathédrales, et on avait l'impression de les voir. Je pense qu'à un moment donné de sa vie, il voulait avant tout donner à comprendre, et puis il y a eu un moment où il s'est avant tout efforcé de donner à voir. Et c'est là où la télévision lui importait, bien sûr.
Il y a donc une église par cité, puisqu'il y a, c'est un vestige du premier christianisme, un évêque dans chaque cité romaine, et là seulement. Donc, ce que l'art des cathédrales signifie d'abord en Europe, c'est la renaissance de la ville, c'est la prospérité urbaine. Parmi tous les vitraux, combien furent offerts par les corporations de travailleurs, non pas des paysans, des gens de métier. Et ces travailleurs ont voulu que dans l'église de leur ville, sur les baies traversées par la lumière de Dieu, soient représentés les gestes et les outils de leur labeur. Et la cathédrale les rassemble tous. Elle est assez vaste aux grandes fêtes pour accueillir toute la population de la ville. Et les bourgeois n'entrent pas dans la cathédrale seulement pour prier, les associations de métiers s'y réunissent, et la commune tout entière pour ses assemblées civiles. La cathédrale est la maison du peuple citadin.
1980, la réalisation, c'était Roger Stéphane. L'idéal, ce serait de pouvoir faire passer la lumière dans les baies pour éclairer le peuple.
Oui, c'est magnifique. C'est un texte qu'il a écrit et réécrit plusieurs fois, parce que ce sont les albums Skira de 66-67 qui donnent naissance au temps des cathédrales de 76, qui réinvestit dans la télévision, dont sort encore un nouveau livre. Donc c'est un long cheminement. C'est par l'histoire de l'art médiéval, que Georges Duby s'émancipe en quelque sorte de son parcours jusque-là relativement classique d'historien, qui avait surtout été le prolongement extraordinairement fructueux de sa thèse, qui était une histoire économique et sociale dans ses dominantes. Et par l'histoire de l'art, il atteint certes la beauté de l'art, mais il atteint aussi l'idéologie et la place déterminante de l'Église dans la société médiévale, ce dont il avait au fond fort peu traité dans ses ouvrages plus savants jusque-là.
Donc le fait d'être aimanté par le public de la télévision le fait avancer. Parce qu'aujourd'hui les universitaires travaillent pour leur père qui les évalue. La génération heureuse des années 70 ne craignait pas de s'adresser à un public très large. En même temps, il faut qu'on raconte comment la réaction ensuite est intervenue. 1985, c'est encore un gouvernement de gauche. François Mitterrand amène Berlusconi en France avec le cinquième. Jacques Lang n'a toujours pas compris. En 1986, Léotard, ministre de la Culture du gouvernement Chirac, amène Bouygues, qui prend la tête de TF1 privatisée. Si Bouygues l'a emporté, Léotard l'a-t-il compris, c'est parce qu'il offrait un mieux-disant culturel, paraît-il, ce que traduisait, ne riez pas, Étienne Moujotte, un des dirigeants de TF1 à l'époque.
Faut s'entendre sur le mot culturel. La culture, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui s'incarne à travers bien des formes, Et ça n'est pas uniquement ces émissions traditionnelles où on parle entre gens cultivés de culture. Et puis la culture, je vais vous dire autre chose, ça va peut-être vous étonner, mais je pense que quand TF1 a donné hier soir à 21h15 en direct de Turin Madonna, mais je ne sais pas si c'est de la culture, mais c'est l'expression d'une réalité de la société d'aujourd'hui. On n'est pas complètement en dehors de la culture quand on voit Madonna.
Il n'y a pas de madoniste dans la salle.
Commentaire de Roland Dordain, c'était sur France Inter. Alors en compensation, on imagine la 7, qui beaucoup plus tard deviendra Arte. Et on la confie à Georges Duby, qui est un homme consensuel en 1986-1987, dans la période de cohabitation. Il n'aimait pas les polémiques, il préférait rassembler.
Oui, c'est un homme qui était tout de même, il le dit dans la version de l'Ego Histoire qu'a retrouvé Patrick Boucheron et que nous publions, c'est un homme qui était très replié sur lui-même. Et toutes ces manifestations publiques, là aussi, comme l'écriture, lui coûtait. En même temps, il rêvait de prendre la direction de cette chaîne parce qu'il se rendait compte qu'en une émission, il pouvait toucher 10 fois plus de gens, même une émission relativement restreinte et peu regardée. Il pouvait toucher 10 fois plus de gens qu'avec le plus vendu de ses livres.
Mais attention, c'était pas encore une chaîne, c'était seulement une société d'édition à l'époque qui était hébergée par France 3, hôte obligé. Et Duby devait subir toutes sortes de questions légèrement sarcastiques.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici la 7, donc la société d'édition des programmes de télévision. Alors, FR3 invite la 7 et lui prête son antenne pratiquement de midi à minuit, on peut le dire, Georges Duby. Vous avez 2 écueils pour ces programmes culturels, l'ennui et l'élitisme.
C'est ça, nous essayons de les contourner, les deux. Nous avons tablé sur le divertissement. Il faut que l'émission culturelle soit pleine, soit enrichissante, mais que surtout, n'est-ce pas, elle procure aux spectateurs du plaisir. Et c'est le plaisir que nous avons mis au premier plan de ce programme.
Bravo.
Et d'autre part, nous avons refusé également l'élitisme. La culture que nous lançons n'est pas une culture d'avant-garde. C'est une culture pour tous, la culture des peuples d'Europe, parce que notre vocation, c'est aussi d'être européen.
Joseph Paltou.
Oui, alors vous pouvez dissocier véritablement le mot culture du mot ennui.
Pourquoi est-ce que la culture serait forcément ennuyeuse? Justement, aucune complaisance. Je pense qu'il faut faire honneur au public en situant le niveau très légèrement au-dessus de ce que l'on lui donne d'habitude.
Très légèrement.
Très légèrement.
Très légèrement. Un pas en avant, pas trois. Georges Duby parmi les programmes de la 7 accueillis par la 3. Des après-midi d'opéra qui a été concocté par Daniel Toscan du Plantier. On retrouvera son nom dans la suite de l'émission. Celui-ci, cet opéra, Sémiramis de Rossini, a été enregistré en plein air à Aix-en-Provence, la base de Georges Duby, au théâtre de l'Archevêché, Montserrat Cabellé et Marilyn Horn.
De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
De Georges Duby, on publie plusieurs étapes de ses égaux histoires et puis un livre collectif, Portrait de l'historien en ses archives. Chez Gallimard, Jacques Delarin est l'invité de la marche de l'histoire. J'ai oublié de donner le nom du metteur en scène de cet opéra de Rossini, c'est Pierluigi Pizzi, que Duby a dû rencontrer en sa bonne ville d'Aix, c'était d'abord un visuel, lui. Alors, il était peut-être mélomane, mais les couleurs de la mise en scène lui importaient particulièrement.
Il fréquentait certainement le Festival d'Aix, et je dois vous dire, je préfère ses voix à celles qui précédaient. Mais avant tout, c'est un visuel, c'est un peintre à titre personnel, et peut-être ses plus beaux textes sont-ils les textes qu'il a déposés sur les œuvres d'art de ses amis peintres et sculpteurs. C'est un homme qui, lorsqu'il écrit, on se demande s'il tient un pinceau ou une caméra. C'est vraiment là un des secrets de son écriture.
Quand vous dites « je préfère entendre Horn et Cabanet plutôt que les journalistes qui questionnent Duby », vous ne mettez pas en cause le nom de Toscan du Plantier. Parce qu'on va le voir associé au bout d'un moment à un grand projet de Duby qui commence par un livre des années 70 consacré au dimanche de Bouvines. Alors Bouvines, c'est le 13e siècle. On avait laissé Duby s'intéressant peut-être d'abord à l'an 1000, au 11e siècle. Il glisse peu à peu.
Alors Georges Duby a été persuadé, ce qui aujourd'hui est toujours l'objet d'un débat, que la grande rupture dans l'histoire de l'Occident s'était produite autour de l'an 1000. Mais il étudie les 11e, 12e siècles pour voir ce qui sort de ce qu'il imagine comme une sorte de crise inaugurale. Et disons que 1214, Bouvines, c'est l'extrême bout de son intérêt. Il sait ce qui se passe ensuite, ça n'est pas la question.
Oh, il a quand même fait un livre avec sa femme, c'était une commande sur Jeanne d'Arc. Il est quand même allé jusqu'au 15e siècle.
Mais il est un peu sorti là de sa chasse gardée.
Mais il fallait une commande, mais Bouvines c'était aussi une commande. Et beaucoup de ses amis se sont étonnés, mais toi qui t'intéresses au temps long, comme nous autres, les disciples de l'école des annales, tu t'intéresses là à une accélération, à une trépidation du temps, c'est l'événement peut-être.
C'est l'audace et le pied de nez absolu, puisque la nouvelle histoire dont Georges Duby se réclamait avec une certaine distance, avec une certaine souplesse, mais c'était avant tout construite comme une histoire anti-bataille, anti-événementielle. Mais la première phrase de Bouvines est exemplaire. En l'année 1214, le 27 juillet tombait un dimanche.
Ah, un dimanche. Alors c'est important, voilà. Ça.
Mais bien sûr, c'est important, parce que cette première phrase, pour reprendre une comparaison avec l'opéra, c'est vraiment l'ouverture. Et en nous disant cela, il nous fait immédiatement comprendre qu'il ne va pas faire une histoire bataille, mais qu'il va nous expliquer que combattre un dimanche, c'est aller contre un interdit de l'Église. Donc c'est tout un arrière-fond anthropologique qu'il va mettre en place avant de voir l'événement. L'événement, dit-il, c'est une bulle qui remonte à la surface et qui dévoile des mouvements beaucoup plus profonds.
Un Bouvines anthropologique. Et l'événement a aussi des répercussions. Il devient événement à cause de la manière dont on le regarde plus tard. Vous serez attentif, après une lecture extraite du livre, à un micro-trottoir fait à Bouvines par France 3 dans les années 2000.
Le 27 juillet 1214, Philippe Auguste a remporté la victoire de Bouvines. Il a combattu contre Othon IV, le roi d'Angleterre, le comte de Flandre et le comte de Boulogne.
Le dimanche 27 juillet 1214, des milliers de guerriers se battirent furieusement près du pont de Bouvines, en Flandre. C'était de surcroît la première bataille qu'un roi de France risquait à livrer depuis plus d'un siècle. Enfin, la victoire que Dieu donna à ceux qu'il aimait fut éclatante, plus que toutes celles dont on pouvait se souvenir. Les champs à moitié moissonnés de Bouvines furent ce jour-là le lieu d'un événement mémorable.
Bah, oui, malgré tout, hein, c'est un village quand même historique. Hein.
Et alors vous, ça vous embêterait de voir par exemple cette ligne passer ?
Oh, oui, certainement.
Vous pensez que ça enlevera quelque chose au village ou même à la campagne ?
Oui, certainement, oui. Ces affaires modernes et tout ça qu'il y a maintenant, hein, je trouve que on a bien notre petit village comme il est.
On empêche le maire de bâtir à Bouvines à cause de cette fameuse zone verte, là. Alors maintenant, là, qu'on va lui implanter ces astronomiques piquets, là, de ligne à haute tension, plus le train à grande vitesse qui doit passer aussi à Bouvines.
Oui, mais enfin, c'est un peu curieux que l'on invoque une bataille qui s'est déroulée il y a 7 siècles, non ?
Ben oui, 7 siècles, mais on n'a quand même plus le respect de rien.
Alors que la bataille soit devenue une zone verte, au fond, ça aurait peut-être intéressé Duby, parce que l'écho de l'événement fait partie de l'événement. ou oui. fait l'événement même.
Ce qui est extraordinaire dans ce livre, Bouvines, le livre que tout historien rêverait d'avoir écrit, c'est qu'il y a à la fois tout l'arrière-fond anthropologique. Lorsqu'il dit, par exemple, « La bataille, c'est le contraire de la guerre », c'est une révélation. Et puis, il y a ensuite tous les ronds dans l'eau qui se font à la suite de cette pierre qui a été... Donc, il y a ce qui remonte du fond, et puis il y a les ondes qui se propagent du souvenir jusqu'à la construction nationale de nos manuels d'histoire.
Alors, Bouvines anthropologique, on pourrait parler de Bouvines sociologique, de Bouvines mythologique. Mais j'aimerais que vous nous parliez de Bouvines cinématographique, avec d'ailleurs la réintervention là de monsieur Toscan du Plantier, qui producteur à l'époque de la Gaumont, propose à Serge July, directeur de Libération, de faire un scénario à partir de Bouvines. Et le cinéaste pressenti, c'est le grand Hongrois, hélas disparu l'an passé, Miklós Jancsó.
Oui, alors Bouvines, et donc le livre est sorti en 73, c'est vers 1980 que cette idée de film prend jour. C'est l'époque où Jacques Le Goff est conseiller historique sur Le Nom de la Rose d'Umberto Eco, adapté par Jean-Jacques Hano au cinéma. Donc on voit bien que c'est la fin de cette période bénie que nous évoquons depuis le début de l'émission. Serge July a écrit un scénario extraordinairement détaillé. Certains acteurs ont été pressentis, comme Gérard Depardieu dans le rôle de Philippe Auguste. Et puis finalement, le projet ne va pas se faire. Mais Georges Duby, je crois, y a pris beaucoup de goût. Et tous ces documents préparatoires...
Le colloque de la Fondation des Trails que vous publiez chez Gallimard, Debecq raconte un voyage de repérage en Hongrie.
Avec Jancsó précisément, où ils sont là, dans la plaine hongroise... Et Duby insiste sur les éléments du paysage qui doivent donner la coloration médiévale.
Je vous ai dit tout à l'heure. Il faut des blés hauts.
Voilà, il faut laisser pousser les blés très hauts. Il faut qu'il y ait l'orée d'un bois. Il faut qu'il y ait cette ligne de démarcation entre la zone cultivée par les hommes, qui reste tout de même étroite et fragile, et puis la zone sauvage.
Et comment représente-t-on un chevalier, lui demande Jancsó.
Alors c'est très compliqué parce que on a très vite tendance à projeter sur ces chevaliers du tout début du XIIIe siècle les armures que l'on voit dans les miniatures du XVe. Donc c'est un travail. Georges Duby était très prudent face à ce travail de reconstitution et il pensait qu'il fallait le plus possible éviter d'en dire d'une certaine manière. De la même manière, les dialogues lui posaient problème. Parce que nous ne savons pas, au fond, comment ces hommes parlaient. Et il disait qu'il valait mieux des bruits à la Bresson que des dialogues trop, trop étendus.
Et puis une question se posait, comment était la femme de 1214? Comment était l'érotique de la femme de 1214? Le dernier grand chantier que vous évoquez dans votre livre collectif, Jacques Delarin, de Duby, c'est sur la femme, la maison, le lignage, et ça se termine par cette question ultime, que sait-on des femmes ? C'est quand même un metteur en scène, au fond.
C'est un peintre et un metteur en scène, et c'est un metteur en scène qui a rendu l'histoire aimable et passionnante parce qu'il l'a dramatisée. C'est-à-dire qu'il a rassemblé un certain nombre d'éléments que lui offraient les sources, mais dans un temps court et en exacerbant la dramatisation de l'événement.
Merci à vous, Jacques Delarin. L'émission a été réalisée par Stéphane Ronxin, préparée par Frédéric Martin, Edine Calé-Ulesco et Franck Olivard, à la technique Enzo Labori.